Bienvenue à Beta Finch, votre analyse d'earning alimentée par l'IA. Je suis Alex, et aujourd'hui nous explorons les résultats du premier trimestre 2026 de Home Depot. C'est un trimestre vraiment intéressant avec beaucoup de développements stratégiques à discuter. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Cela dit, parlons de Home Depot. Jordan, tu as examiné les chiffres. Qu'est-ce qui t'a frappé en premier ?
Merci Alex. Honnêtement, le chiffre le plus intéressant pour moi est que les ventes totales ont atteint 41,8 milliards de dollars. En hausse de 4,8% par rapport à l'année précédente. Mais voici le truc où les ventes comparables sont restées pratiquement stables, avec seulement 0,6% de croissance. Donc la croissance provient vraiment des acquisitions et des nouveaux magasins, pas d'une augmentation organique massive.
C'est un point crucial. Parlons de ce que cela signifie. Le bénéfice par action dilué ajusté était de 3,43 dollars, en baisse de 3,7% par rapport à l'année précédente. C'est une baisse, non? Mais l'entreprise dit que tout cela était attendu. Pourquoi?
C'est là que les acquisitions entrent en jeu. Richard Mcefaye, le directeur financier, a expliqué qu'une grande partie de cette pression sur les marges brutes, nous parlons de 75 points de base, venait directement de l'acquisition de GMS. Ils ont intégré cette activité, et elle a une structure de marge différente. Ils s'attendaient à cela.
D'accord, donc ils construisent une base plus large, même si cela signifie accepter une certaine pression sur les bénéfices à court terme. Parlons de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Je pense que beaucoup de gens remarquent que le segment pro surpasse vraiment DY en ce moment.
Absolument. C'est fascinant. Le PDG Ted Decker a beaucoup parlé de la stratégie pro. Il voit cela comme une opportunité de 700 milliards de dollars. Et voici la clé, ils disent qu'ils gagnent des parts de marché spécifiquement auprès des professionnels qui effectuent des projets complexes. C'est une clientèle très différente des bricoleurs occasionnels.
Et ils ont fait une acquisition majeure cette semaine, Mangeldorfes, un distributeur HVAC. Explique-moi pourquoi c'est important.
Bien sûr. Mangeldorfes opère en tant que distributeur en gros de climatisation, ventilation et chauffage avec 42 emplacements dans 5 États du Sud-Est. Mais voici le vrai jeu stratégique, cela donne à Home Depot une pénétration dans un marché adressable de 100 milliards de dollars pour les pièces et fournitures HVAC. Decker a dit que cela élève leur marché adressable total à 1,2 trillion de dollars.
C'est énorme. Donc ils ne vendent plus seulement des outils et des fournitures de bricolage. Ils deviennent un véritable distributeur pour les entrepreneurs professionnels.
Exactement. Et l'écosystème qu'ils construisent est vraiment impressionnant. Pense à cela aux 2360 magasins, 325 entrepôts, plus de 1300 succursales SRS, environ 16 000 actifs de livraison et plus de 5 000 associés en vente. C'est une infrastructure de distribution que très peu de concurrents peuvent égaler.
Maintenant, parlons du segment en ligne, parce que je pense que c'est aussi une histoire importante. Les ventes en ligne comparables ont augmenté de plus de 10%, et c'est le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.
C'est vraiment impressionnant étant donné l'ensemble du marché. Et Anne-Marie Campbell, qui dirige les opérations, a parlé de quelque chose appelé « ship from best location ». Fondamentalement, plutôt que d'avoir un système de commandes centralisé, ils optimisent les commandes via leurs magasins et entrepôts en fonction de la distance, des stocks disponibles et de la vitesse de livraison.
Cela semble simple, mais c'est vraiment intelligent. C'est utiliser ton réseau physique comme un avantage concurrentiel dans le commerce électronique.
Exactement. Et Billy Bastek, le responsable du merchandising, a mentionné qu'il réduisait les annulations et améliorait les délais d'exécution. Nos scores de satisfaction client et nos scores de probabilité de réachat s'améliorent tous. C'est un signe que ces investissements en technologie paient réellement.
Revenons aux consommateurs pour une seconde, parce que c'est la grande question sous-jacente. Le consommateur va-t-il bien? Parce que nous voyons clairement une modération des grands projets de rénovation. Les transactions importantes de plus de 1000 dollars ont légèrement augmenté, mais c'est à peu près tout.
Ted Decker a été honnête à ce sujet. Il a dit que le consommateur est resté remarquablement résili, mais qu'il y a une grande incertitude. Le client type de Home Depot possède sa maison, a vu la valeur de sa maison augmenter considérablement au cours des dernières années, et son portefeuille d'actions s'est amélioré. Mais avec des taux d'intérêt plus élevés et des prix du carburant en hausse, les gens repensent à ces gros projets.
Et voici un détail intéressant que beaucoup de gens pourraient manquer. La direction a reconfirmé son orientation pour 2026. Ils s'attendent toujours à une croissance des ventes comparable entre 0 et 2%. Cela signifie qu'ils ne paniquent pas. Ils s'attendent à ce que le second semestre s'améliore simplement en raison des comparaisons de base.
C'est un point clé. Richard McPhail a déclaré que les résultats du second semestre l'année précédente avaient été significativement affectés par les tempêtes de grêle et les tempêtes de vent ou des événements météorologiques historiquement bas. Donc les comparaisons devraient être plus faciles en arrière-plan.
Parlons des marges brutes un instant. Elles s'élèvent à 33%, en baisse de 75 points de base. Mais l'orientation pour l'année entière est d'environ 33,1%. Cela signifie-t-il qu'elle s'améliore ?
Oui, et c'est important. Richard a explicitement déclaré que la vaste majorité de cette baisse de 75 points de base au premier trimestre était due à GMS. Mais il a également mentionné une certaine pression du marché de la toiture où ce marché a chuté de 28% en expédition au quatrième trimestre de l'année précédente. C'était le pire trimestre depuis 2019.
Donc ils acceptent une certaine pression de prix pour maintenir leur position concurrentielle. C'est une excellente stratégie pour les affaires à long terme, même si elle crée de la pression à court terme sur les bénéfices.
Exactement. Et regardez le crédit commercial pro qu'ils construisent. L'annonce a mentionné qu'ils ciblent des conditions de paiement à 30 jours à partir de l'expédition plutôt qu'au point de vente. Pour les entrepreneurs, c'est un énorme avantage en fonds de roulement. C'est le type de choses qui fidélise vraiment les clients professionnels.
Et selon ce qui a été présenté, la croissance des ventes auprès des grands entrepreneurs qui rénovent et construisent des maisons est plus forte que la croissance globale du pro. C'est précisément ce sur quoi ils travaillent.
Oui, et ils ont également mentionné 400 millions de dollars de ventes croisées entre leurs différentes filiales Home Depot, SRS, GMS et d'autres. Ils s'attendent à doubler cela l'année prochaine. C'est simplement de l'argent supplémentaire qu'ils peuvent générer en reliant mieux les diverses unités commerciales.
Maintenant, la question que tout le monde se pose probablement compte tenu de tous ces vents contraires économiques, l'orientation en matière de bénéfices par action est stable à 4%. Comment Home Depot peut-elle maintenir cela?
C'est une excellente question. Ils disent que c'est en raison de leur position de leader du marché et de leur capacité à capter des parts de marché. Et si vous regardez ce que les concurrents rapportent, les fabricants, les autres détaillants, même les distributeurs, beaucoup d'entre eux sont en baisse. Home Depot, bien qu'en hausse modeste, prend clairement des parts dans cette période de modération.
C'est la dernière chose que je veux souligner pour les auditeurs. Il y a une certaine inquiétude légitime concernant les taux hypothécaires plus élevés, les prix du carburant, l'inflation. La direction n'est pas en train de faire tourner un conte de fées. Ils disent que la demande est modérée. Mais ils disent aussi qu'ils sont bien positionnés pour naviguer dans cet environnement mieux que la plupart.
Et avec raison. Pensez-y, ils ont un réseau de 2360 magasins, une présence croissante en ligne, une stratégie pro-stratifiée en profondeur, et maintenant une plateforme de distribution en gros plus grande pour les entrepreneurs. C'est une base commerciale vraiment résiliente pour les temps incertains.
Avant de conclure, je tiens à aborder un dernier sujet, les dépenses en capital. Home Depot investit environ 2,5% de ses ventes en CAPEX, ce qui semble raisonnable. Ils ouvrent 12 nouveaux magasins ce trimestre et en projettent 15 pour l'année. Ils construisent toujours pour la croissance à long terme, même si les conditions macroéconomiques sont difficiles.
Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci, Jordan. Donc voilà Home Depot First Quarter 2026. Une entreprise qui exécute sa stratégie malgré un environnement de marché difficile. Les investisseurs doivent surveiller comment le segment pro continue à se développer et comment ses acquisitions de distribution contribuent réellement aux bénéfices. C'est Beta Finch. Merci de nous avoir écoutés, et nous verrons la prochaine fois. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.